Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de La Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Surianto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, vendredi 10 juin 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi du commentaire « Aujourd'hui dans l'histoire », la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre des Affaires étrangères ASEAN, Chine, assistera à la réunion spéciale. L'Indonésie a souligné la solution pacifique du conflit de la mer de Chine méridionale. L'Indonésie commence à exploiter le marché du Cameroun. Le ministère du Commerce améliore le réseau avec des entrepreneurs chiliens. Les hommes d'affaires italiens ont participé à la réunion d'affaires pour investir des projets de développement des infrastructures en Indonésie. L'Indonésie doit dominer le tourisme en Asie-Pacifique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, assistera à une rencontre avec les ministères des Affaires étrangères ASEAN-Chine et le directeur des partenaires du dialogue et de la coopération entre la région de l'ASEAN. Du ministère indonésien des Affaires étrangères, Dery Aman a affirmé que la réunion serait organisée du 13 au 15 juin à Kunming, en Chine. Cette réunion est une réunion spéciale en dehors de l'horaire régulier et une continuation de la réunion ministérielle de l'ASEAN tenue en février dernier au Laos. Lors de cette réunion, nous discuterons des progrès de la coopération entre l'ASEAN et la Chine, qui a 25 ans cette année, et d'autres questions régionales. Certains points culminants que je peux partager ici peut être les principaux points de 25 ans de partenariat ASEAN-Chine sont tout d'abord la cible commerciale. La cible commerciale en 2020 est à peu près dans les 4 prochaines années d'un montant de 1 trillion dollars américains et la cible totale d'investissement est de 150 milliards de dollars américains. Dery Aman a expliqué que la Chine était le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN. Les relations ont débuté officiellement en 1961 et jusqu'en décembre 2014, la valeur des échanges entre les deux parties était élevée à 366,5 milliards de dollars américains et la valeur d'investissement était de 21,3 milliards de dollars américains. L'année 2016 est également désignée comme l'année d'échange de l'éducation ASEAN-Chine pour intensifier la coopération dans les domaines de l'éducation, les échanges de jeunes, le contact du peuple au peuple et l'augmentation de la sensibilisation de la société. L'année 2017 sera définie comme l'année du tourisme ASEAN-Chine pour augmenter la visite touristique et la connectivité dans le cadre d'une série d'événements pour célébrer le 25e anniversaire des relations ASEAN-Chine. La réception aura lieu à Jakarta comme le siège de l'ASEAN. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, assistera à une réunion avec le ministère des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN et la République populaire de Chine du 13 au 15 juin à Kunming, en Chine. Le directeur des partenaires de dialogue et de la coopération entre la région de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Dery Aman, a déclaré que le conflit de la mer de Chine méridionale serait l'un des sujets de discussion dans cette réunion. Dans une conférence de presse tenue au ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi, le 9 juin, Dery Aman a affirmé que la position indonésienne liée au conflit de la mer de Chine méridionale ne changerait pas au cours des 10 prochaines années. L'Indonésie encouragera pleinement et efficacement la mise en œuvre de la déclaration de conduite ou DOC. Il a souligné que la solution du conflit de la mer de Chine méridionale devait être faite pacifiquement.
Bahwa penyelesaian sengketa atau dispute settlement itu harus dilakukan secara damai.
La solution du conflit doit être faite pacifiquement, ne pas utiliser la violence et à travers le respect du processus juridique et diplomatique. Le plan respecte le diplomatique et le processus juridique. Dery Aman a expliqué face à des situations de conflit sur le terrain ce que doit être fait est de se retenir ou pas d'activité sur la mer de Chine méridionale. Les choses qui sont la provocation doivent être évitées. Ainsi, les conditions dans la mer de Chine méridionale seront propices. Dery a expliqué lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine, une déclaration commune ne sera pas publiée. Le Centre de la promotion commerciale de l'Indonésie à Lagos a commencé à exploiter le commerce du Cameroun, qui est la porte d'entrée des affaires vers la région de l'Afrique centrale et possède des installations portuaires et infrastructures qui soutiennent les activités de commerce international. Pour approfondir ces efforts, le Centre indonésien de la promotion commerciale à Lagos a organisé une réunion d'affaires à Douala, au Cameroun. Le chef de ce centre, Nino Wawan Setiawan, a déclaré jeudi, dans une déclaration écrite, qu'en plus d'explorer davantage le potentiel du marché et les acteurs économiques du Cameroun, cette activité vise à promouvoir le potentiel et les produits de l'Indonésie au Cameroun. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie à travers le Centre de la promotion du commerce d'Indonésie ou ITPC à Santiago va améliorer le réseau de coopération avec des acheteurs potentiels de ce pays et demande à participer à l'exposition commerciale d'Indonésie ou TEI. TEI est la plus grande exposition de la promotion du commerce à l'échelle internationale. Cette année, TEI sera assistée par plus de 10 000 visiteurs de partout dans le monde. Aura lieu du 2 au 16 octobre 2016 à J-Expo Kemayoran, Jakarta. En plus de la socialisation Prima Duta Award en 2016, cet événement est aussi organisé pour promouvoir et inviter les acheteurs à participer à l'exposition commerciale d'Indonésie au TEI 2016. Le chef du Centre de la promotion du commerce de Lagos, M. Prihadi Andi Sugiono, dans un communiqué de presse jeudi, a déclaré que les deux parties ont également discuté du progrès des négociations d'un accord de partenariat économique mondial Indonésie-Chili. Prihadi Andi Sugiono propose 21 entreprises chiliennes nommées Prima Duta Award 2016 qui se composent de 11 petites et moyennes entreprises et 10 entreprises ayant une valeur d'importation le plus élevée. On espère le prix Prima Duta cette année puisse soutenir le développement commercial entre l'Indonésie et le Chili à l'avenir. Les hommes d'affaires italiens ont participé à la réunion d'affaires pour investir des projets de développement des infrastructures en Indonésie. Cela a été révélé dans une réunion d'affaires qui a été tenue par l'ambassade d'Indonésie à Rome avec des hommes d'affaires italiens dans l'infrastructure tenue à l'ambassadeur d'Indonésie à Rome, a déclaré l'autre fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Rome, Aris Asriadi, à Antara, Londres, vendredi. La réunion a été participée par 26 participants, vise à réaliser des divers accords de coopération dans le domaine de l'infrastructure entre l'investisseur italien et les entreprises en Indonésie, qui a été signé lors de la visite d'État du président de l'Italie, Sergio Mattarella, en Indonésie en novembre 2015. En outre, la réunion donne également des informations plus claires aux entrepreneurs italiens sur les politiques et les priorités du gouvernement indonésien. La réunion a été dirigée par le vice-dirigeant indonésien à Rome, Des Alvi. Cette réunion fait partie des efforts visant à accroître le nombre d'investissements italiens en Indonésie. Jusqu'à la fin 2015, on atteint 146,6 milliards de dollars américains hors du secteur financier, pétrolier et gazier. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, M. E.E. Mangindaan, a déclaré que l'Indonésie devait gagner la compétition dans le tourisme en Asie-Pacifique. Si on va gagner le tourisme, il faut dominer le secteur dans la région Asie-Pacifique qui peut créer des emplois et augmenter la croissance économique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sixième l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre le projet de la visite d'État du président philippin. L'Indonésie et les Philippines ont une grande occasion de discuter de l'intensification de la coopération et d'identifier les problèmes entre les deux pays. Cet optimisme a émergé dans le cadre du projet de la visite d'État du président philippin Rodrigo Duterte en Indonésie, après qu'il devienne officiellement président des Philippines. Les gens philippins ont choisi Rodrigo Duterte comme un leader dans l'élection générale à ce pays récemment. Le plan de cette visite a été révélé lors d'une réunion du vice-gouverneur de Sulawesi du Nord, Stephen Kando, avec le consul général des Philippines, Oscar Orsin, à Manado récemment. Le consul général des Philippines a déclaré que le président Rodrigo Duterte ferait l'Indonésie comme première priorité de sa visite d'État après l'investiture. Sa visite devient également une réponse à la visite du président Joko Widodo à ce pays voisin limitrophe de la province du Nord de Sulawesi, peu après qu'il devienne officiellement président. Pour l'Indonésie, les Philippines sont un pays voisin qui n'est pas seulement très proche, mais aussi important et stratégique. Le nord de Sulawesi, qui a les frontières maritimes avec Mindanao, nécessite une coopération accrue et des meilleures relations, non seulement en raison de la proximité géographique. La coopération entre les deux provinces peut intensifier les bonnes relations entre les deux pays et résoudre des questions maritimes comme pêche illégale. En outre, la connaissance et la meilleure compréhension de l'Indonésie, en particulier du nord de Sulawesi, permettront un nombre croissant de la visite des touristes philippins à Sulawesi du Nord. Dans la perspective de la coopération régionale, l'Indonésie et les Philippines sont les deux premiers pays à renforcer l'ASEAN. À travers la coopération des deux pays, le rôle de l'ASEAN peut être amélioré. L'Indonésie et les Philippines peuvent trouver une solution aux différends dans la mer de Chine méridionale. Outre les questions politiques régionales, en bilatéral, l'Indonésie et les Philippines ont le potentiel de développer la coopération dans les domaines de l'économie et de l'éducation. La question du nombre de ressorts artisans indonésiens à la frontière de Mindanao et le nord de Sulawesi peut également être un sujet de discussion. La visite du nouveau président des Philippines, Rodrigo Duterte, après son investiture, en plus de se présenter, serait très utile pour accroître la compréhension et la coopération entre les deux gouvernements afin d'améliorer le bien-être de son peuple. Serge Tor, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition 10 juin. On va commencer le 10 juin 1968. Premier cabinet du développement 1 a été inauguré dans l'ère de nouveau ordre. Premier cabinet du développement 1 est le nom du cabinet du gouvernement indonésien dans les années 1968 à 1973 sous les dirigeants du président Suharto. Ce cabinet a été fondé le 6 juin 1968 et inauguré le 10 juin 1968. La composition de ce cabinet n'était pas trop différente avec la composition précédente du cabinet Ampera II. Ce n'était pas longtemps après les élections générales 1971 au 9 septembre 1971. Le président Suharto a annoncé le remaniement ministériel du développement 1 et l'a inauguré ses ministères le 11 septembre 1971. On continue le 10 juin 1916, début de la grande révolte arabe. Le shérif de la Mecque, Hussein ibn Ali, menait une vaste rébellion destinée à libérer la péninsule arabique de l'emprise de l'Empire ottoman. Il souhaite ainsi créer un État arabe unifié. La grande révolte arabe aurait été lancée suite à des discussions menées entre Lawrence d'Arabie, un officier britannique, et le shérif de la Mecque. Les populations arabes reçoivent dans ce combat le soutien de l'Empire britannique ainsi que la promesse d'Henry McMahon d'une indépendance arabe pour les territoires libérés. On termine le 10 juin 2009 l'inauguration plus longue du pont Suramadu en Indonésie. Le pont Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura, reliant Java et Madura, avec une longueur de 5438 mètres, est le plus long pont en Indonésie aujourd'hui. Le pont Suramadu se compose de trois parties, à savoir le viaduc pont jeté, des ponts à proche du pont et le pont principal, pont principal. Le pont a été inauguré le début de sa construction par le président Megawati Sukarnoputri le 20 août 2003 et son ouverture a été inaugurée par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. La construction du pont est destinée à accélérer le développement de l'île de Madura, couvrant l'infrastructure et l'économie en Madura, ce qui est relativement faible par rapport à d'autres régions de l'Est de Java. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers fidèles auditeurs Artkis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point ayant pour le titre « L'Indonésie a condamné l'attaque à la bombe à Istanbul en Turquie ». La Turquie a été secouée à nouveau la bombe. Une bombe a explosé près de Beyazit, quartier historique à Istanbul, en Turquie, mardi 7 juin 2016, à environ 8h50 heure locale. Tuant 11 personnes. 7 des victimes étaient des policiers anti-émeutes et 4 civils. La cinquième attaque à la bombe depuis le début de l'année 2016 a également blessé 36 autres personnes. Un citoyen indonésien nommé Anwar Abadi Arshadi, étudiant du département physique de l'Université d'Istanbul, était blessé à cause de cette explosion. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, a émis une critique sévère pour un attentat à la bombe qui a frappé Istanbul en Turquie. Le gouvernement et le peuple de l'Indonésie, par l'intermédiaire d'une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères, mardi, a exprimé sa sympathie et ses condoléances profondes au peuple et au gouvernement turc, en particulier pour les victimes et leurs familles. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, comme rapporté par Antara, a affirmé que le consulat général de la République d'Indonésie à Istanbul continuerait de coordonner avec les autorités compétentes en Turquie à observer directement la situation. Il a également appelé les citoyens indonésiens résidant en Turquie évite les centres surpeuplés qui pourraient être des cibles de terroristes. Tandis que les citoyens indonésiens qui se rendront à cette région devraient prêter attention au développement de la situation. Sur la base des données du consulat général de l'Indonésie à Istanbul, il y a actuellement environ 708 citoyens indonésiens qui vivent à Istanbul. La plupart d'entre eux sont des étudiants ou des citoyens de l'Indonésie qui ont un emploi stable en Turquie. Pendant ce temps, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, comme rapporté par Compass, a soupçonné que le groupe du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PWK, était derrière les attaques de terroristes. Lors de se rendre visite à les résidents blessés à l'hôpital Haski Istanbul mardi le 7 juin 2016, Erdogan a dit que la Turquie va combattre les terroristes jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Pendant ce temps, le personnel spécial du chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, Henry Sucipto, évalue que les incidents à la bombe en Turquie est devenu un avertissement à toutes les parties. Henry a dit qu'il y avait un changement de motif et de cible des attaques des groupes terroristes. Ce changement était également évident dans les attaques de terroristes qui ont eu lieu récemment. Dans les attentats à la bombe à Istanbul, les terroristes ciblent les forces de sécurité, la police. Cette condition est similaire aux attaques de terroristes à Jakarta il y a quelque temps, a dit Harry. Harry a rappelé que l'Indonésie devrait être prête toujours et augmenter la vigilance parce que les actes de terrorisme ne peuvent pas être prévus et peuvent se produire à tout moment. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, assistera à une rencontre avec les ministères des Affaires étrangères ASEAN-Chine et le directeur des partenaires du dialogue et de la coopération entre la région de l'ASEAN. Du ministère indonésien des Affaires étrangères, Dery Aman a affirmé que la réunion serait organisée du 13 au 15 juin à Kunming, en Chine. Cette réunion est une réunion spéciale en dehors de l'horaire régulier et une continuation de la réunion ministérielle de l'ASEAN tenue en février dernier au Laos. Lors de cette réunion, nous discuterons des progrès de la coopération entre l'ASEAN et la Chine, qui a 25 ans cette année, et d'autres questions régionales.
Beberapa
certains points culminants que je peux partager ici peuvent être les principaux points de 25 ans de partenariat ASEAN-Chine sont tout d'abord la cible commerciale. La cible commerciale en 2020 est à peu près dans les 4 prochaines années d'un montant de 1 trillion de dollars américains est la cible totale d'investissement est de 150 milliards de dollars américains. Derry Aman a expliqué que la Chine était le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN. Les relations ont débuté officiellement en 1961 et jusqu'en décembre 2014, la valeur des échanges entre les deux parties était élevée à 366,5 milliards de dollars américains et la valeur d'investissement était de 21,3 milliards de dollars américains. L'année 2016 est également désignée comme l'année d'échange de l'éducation ASEAN-Chine pour intensifier la coopération dans les domaines de l'éducation, les échanges de jeunes, le contact du peuple au peuple et l'augmentation de la sensibilisation de la société. L'année 2017 sera définie comme l'année du tourisme ASEAN-Chine pour augmenter la visite touristique et la connectivité. Dans le cadre d'une série d'événements pour célébrer le 25e anniversaire des relations ASEAN-Chine, la réception aura lieu à Jakarta comme le siège de l'ASEAN. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, assistera à une réunion avec le ministère des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN et la République populaire de Chine du 13 au 15 juin à Kunming, en Chine. Le directeur des partenaires de dialogue et de la coopération entre la région de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Derry Aman, a déclaré que le conflit de la mer de Chine méridionale serait l'un des sujets de discussion dans cette réunion. Dans une conférence de presse tenue au ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi, le 9 juin, Derry Aman a affirmé que la position indonésienne liée au conflit de la mer de Chine méridionale ne changerait pas au cours des 10 prochaines années. L'Indonésie encouragera pleinement et efficacement la mise en œuvre de la déclaration de conduite ou DOC. Il a souligné que la solution du conflit de la mer de Chine méridionale devait être faite pacifiquement.
Bahwa penyelesaian sengketa atau dispute settlement itu harus dilakukan secara damai.
La solution du conflit doit être faite pacifiquement, ne pas utiliser la violence et à travers le respect du processus juridique et diplomatique. Le plan respect du diplomatique et le processus juridique. Derry Aman a expliqué face à des situations de conflit sur le terrain, ce que doit être fait est de se retenir ou pas d'activité sur la mer de Chine méridionale. Les choses qui sont la provocation doivent être évitées. Ainsi, les conditions dans la mer de Chine méridionale seront propices. Derry a expliqué lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine, une déclaration commune ne sera pas publiée. Le centre de la promotion commerciale de l'Indonésie à Lagos a commencé à exploiter le commerce du Cameroun, qui est la porte d'entrée des affaires vers la région de l'Afrique centrale et possède des installations portuaires et infrastructures qui soutiennent les activités de commerce international. Pour approfondir ces efforts, le Centre indonésien de la promotion commerciale à Lagos a organisé une réunion d'affaires à Douala, au Cameroun. Le chef de ce centre, Nino Wawan Setiawan, a déclaré jeudi, dans une déclaration écrite, qu'en plus d'explorer davantage le potentiel du marché et les acteurs économiques du Cameroun, cette activité vise à promouvoir le potentiel et les produits de l'Indonésie au Cameroun. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie à travers le Centre de la promotion du commerce d'Indonésie ou ITPC à Santiago va améliorer le réseau de coopération avec des acheteurs potentiels de ce pays et demain à participer à l'exposition commerciale d'Indonésie ou TEI. TEI est la plus grande exposition de la promotion du commerce à l'échelle internationale. Cette année, TEI sera assistée par plus de 10 000 visiteurs de partout dans le monde. Aura lieu de 2 au 16 octobre 2016 à J-Expo Kemayoran, Jakarta. En plus de la socialisation Prima Duta Award en 2016, cet événement est aussi organisé pour promouvoir et inviter les acheteurs à participer à l'exposition commerciale d'Indonésie au TII 2016. Le chef du centre de la promotion du commerce de Lagos, M. Prihadi Andi Sugiono, dans un communiqué de presse jeudi, a déclaré que les deux parties ont également discuté du progrès des négociations d'un accord de partenariat économique mondial Indonésie-Chili. Prihadi Andi Sugiono propose 21 entreprises chiliennes nommées Prima Duta Award 2016 qui se composent de 11 petites et moyennes entreprises et 10 entreprises ayant une valeur d'importation le plus élevée. On espère le prix Prima Duta cette année puisse soutenir le développement commercial entre l'Indonésie et le Chili à l'avenir. Les hommes d'affaires italiens ont participé à la réunion d'affaires pour investir des projets de développement des infrastructures en Indonésie. Cela a été révélé dans une réunion d'affaires qui a été tenue par l'ambassade d'Indonésie à Rome avec des hommes d'affaires italiens dans l'infrastructure tenue à l'ambassadeur d'Indonésie à Rome, a déclaré l'autre fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Rome, Aris Asriadi, à Antara, Londres, vendredi. La réunion a été participée par 26 participants, vise à réaliser des divers accords de coopération dans le domaine de l'infrastructure entre l'investisseur italien et les entreprises en Indonésie, qui a été signé lors de la visite d'État du président de l'Italie, Sergio Mattarella, en Indonésie en novembre 2015. En outre, la réunion donne également des informations plus claires aux entrepreneurs italiens sur les politiques et les priorités du gouvernement indonésien. La réunion a été dirigée par le vice-dirigeant indonésien à Rome, Des Alvi. Cette réunion fait partie des efforts visant à accroître le nombre d'investissements italiens en Indonésie. Jusqu'à la fin 2015, on atteint 146,6 milliards de dollars américains hors du secteur financier, pétrolier et gazier. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, M. E.E. Mangindaan, a déclaré que l'Indonésie devait gagner la compétition dans le tourisme en Asie-Pacifique. Si on va gagner le tourisme, il faut dominer le secteur dans la région Asie-Pacifique qui peut créer des emplois et augmenter la croissance économique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours Daniel Fafrice qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Ses amis, passons maintenant le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter Porridge de la soupe malais, l'un des menus typiques d'Iftar à Medan. Au mois de Ramadan, chaque région en Indonésie dispose d'un menu typique de l'Iftar qui n'existe pas dans d'autres régions. Ce menu d'Iftar est généralement présent seulement dans le mois de Ramadan, comme par exemple le porridge de la soupe malais, le repas de l'Iftar typique de Medan au nord de Sumatra. Cet aliment est seulement présent à la grande mosquée Al-Mashur Medan et distribué aux pèlerins et aux habitants vivant autour de la mosquée. Pendant des décennies, le porridge de la soupe malais est cuit et distribué à tous les pèlerins. Cette activité a été faite depuis la construction de la Grande Mosquée en 1909 et initialement, cette bouillie est servie par le Royaume Mali, le Sultanat Maïmoun, pour les voyageurs et les migrants qui étaient arrêtés pour rompre le jeûne. Cet événement est maintenu jusqu'à maintenant. Le porridge de la soupe est ensuite en choisi comme le repas de l'iftar qui est distribué gratuitement tous les jours parce que sa fabrication est facile et aussi pour introduire la nourriture typique malais et le repas de l'iftar du roi Delhi à la communauté. Le porridge soupe est cuit à 10 heures. De mélanger l'assaisonnement à couper les pommes de terre et de la viande comme ingrédient principal de la soupe. En plus de la viande et des pommes de terre, d'autres matériaux à base sont du riz, les carottes et les épices comme cannelle et le porridge et puis saupoudre avec ayam, une sorte de légume fait de germes de soja et la feuille d'une fougère. Après la prière de midi, les ingrédients sont cuits dans la cheminée de bois de chauffage. Une fois cuits, versés dans deux grands chaudrons, 1000 plats sont préparés tous les jours pour l'assemblage à la rupture du jeûne à la cour de la mosquée. Pour les citoyens qui veulent rompre le jeûne à la maison avec le porridge de la soupe, la mosquée lui permet de transporter des conteneurs, mais ils ont à faire la quille au début, soit depuis la prière Asar. La saveur du porridge soupe est si distinctif, savoureuse et riche en épices, telle que la cuisine malais générale. Cette bouillie est bien adaptée comme un menu de l'iftar. En plus de fournir la bouillie, la mosquée a mis du thé chaud comme un ouvreur de boisson. À partir de 17h30, les gens ont commencé à arriver et à s'asseoir directement en face du porridge. Pour faire le porridge soupe pour un mois, la grande mosquée dépense jusqu'à 60 millions de rupiahs. Le fonds est collecté par les sultanats auprès des donateurs. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleurs et en pour titre les zèbres comme centrale électrique. Ce n'est pas plus un secret si l'électricité devient l'un des besoins importants qui soutient dans diverses activités de la vie humaine sur la Terre. Dans la vie quotidienne, presque tout le monde utilise l'électricité, par exemple l'électricité pour l'éclairage et pour aider dans les activités de travail. Non seulement pour les besoins quotidiens des gens, mais des grandes usines étaient aussi indirectement dépendantes de l'électricité. En Indonésie, actuellement, la centrale utilise généralement la puissance de l'eau, bien qu'il y ait toujours la centrale avec d'autres puissances, par exemple la vapeur, l'énergie solaire et d'autres. Certains chercheurs ont découvert qu'il y avait assez d'électricité dans les arbres pour alimenter en énergie électrique au circuit électronique. Cette découverte pourrait être un moyen pour qu'un ordinateur à la maison puisse être fourni son énergie à partir des arbres plantés dans le jardin derrière la maison. Basé sur les résultats de cette découverte, des chercheurs Ahung Buana Siregar, ang étudiant de l'Université de Sumatra du Nord, USU, essaie de le réaliser. Les résultats de développement ont remporté le championnat dans une course contre la Chine, la Corée et le Vietnam, parce que la centrale d'Ahung est très respectueuse de l'environnement. Selon Ahung, l'énergie électrique sera obtenue lorsque les plantes ou les arbres effectuent le processus de la photosynthèse. Des résultats de cette photosynthèse d'environ 70% ne sont pas utilisés par la plante, puis jetés par les racines. Donc, toutes les racines des arbres contiennent des bactéries mycorhizes ou des microbes du sol. Les microbes appelés mycorhizes vont changer et collecter les résultats du reste de la photosynthèse qui ne sont pas utilisés, deviennent une énergie. Serge Ritter, PT Pertamina EP Rantau Aceh, a mis en œuvre les résultats de la recherche sur les 100 arbres connus sous le nom des arbres de cheval ou soi-disant kedong-dong hutan ou Spondia pinnata par la population d'Aceh, et ces arbres peuvent conduire l'électricité. Auguste Amperianto, gestionnaire de chambre de PT Pertamina EP Rantau, a expliqué: à partir des résultats de recherche initiaux, d'un arbre serait acquis la tension d'alimentation électrique de 0,7 volts. Si quelques arbres sont combinés en série ou en parallèle, seront obtenus la tension et le courant suffisants pour être convertis sous la forme d'énergie électrique de moins de 12 watts. La puissance électrique peut être allumée 4 ampoules LED chacun de 3 watts pour une maison. Auguste a ajouté: pour produire de l'énergie électrique, les arbres de Spondia pinnata ont au minimum des racines fortes et les tiges avec le diamètre de moins de 15 à 20 cm. Les plus grands arbres sont utilisés, plus la tension électrique est générée. Cette invention pourrait être appliquée par des gens qui ne sont pas en mesure d'installer l'électricité et des endroits isolés qui sont difficiles d'être touchés par l'électricité. Serge Talk, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique de la Voix de l'Indonésie, édition de vendredi, avec moi, Mohamed Swartono. Comme chaque vendredi, on vous présente la musique de dangdut. Et pour ce soir, avec la chanteuse Jelita Janet. Alors, comme le début de notre rencontre, allez écouter la chanson de Jelita Janet intitulée « Dire Jack ». Bonne écoute.
Calling, calling, aku lagi maafin, malah nyakitin.
Servido Sami, le mot musical de dangdut est si populaire en Indonésie. Alors, chaque année, il y a toujours de nouveaux chanteurs ou chanteuses de dangdut. Donc, pour Janet Janet, comme la nouvelle chanteuse, elle va montrer son talent dans la musique, surtout le rythme de dangdut. Elle est maintenant encore populaire comme le nouvel talent en Indonésie. Bon, chers amis, allez, encore écouter la deuxième chanson de Janita Janet intitulée Bonne écoute.
Coba untuk melupakan kamu.
Chers amis, Janita Janet, elle est née au 1er juillet 1987. Elle a commencé sa carrière un peu en retard, mais ça va. Elle a commencé en 2013, ça fait 3 ans. Et pendant sa vie dans le monde de musique, elle a déjà lancé 3 pistes qui sont très populaires. Et vous savez, en 2015, le nom de Janita Janet est de plus en plus connu avec son album Gardu, c'est-à-dire Galau Merindu. La chanson Gardu est si populaire en Indonésie. Avec son succès, Janita Janet est très heureuse. Puis, elle va toujours vers mieux dans la musique, surtout au rythme dangdut. Servidor Zami, c'était le magazine de musique avec la chanteuse Janita Janet. Et avant de vous quitter, écoutez d'abord de dernière chanson de Jenita Janet intitulé Gardu Galo Merindu. Jangan dengarkan mereka. Bon écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Ikhlasin aja, tenangkan dirimu. Biarin aja.
chers amis, il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Pour toute correspondance, je vous rappelle notre adresse, La Voix de l'Indonésie, PO Box 1107 Jakarta, code postal 10011, Indonésie. C'est la fin de notre émission en français de La Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.